VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du mardi 7 septembre 2021. Jean-Roger Dion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. Un soutien d'État aujourd'hui pour la junte qui a pris le pouvoir en Guinée. Les militaires ont été adoubés par le leader de l'opposition, Sélou Dalène Diallo. Mali Oumar Sambaké, le chef des forces spéciales, retourne volontairement en prison. Il est accusé d'avoir réprimé les manifestations sous Ibrahim Boubacar Keïta. Paul Kagame défend le procès de Paul Rusesabagina, accusé de terrorisme. Afghanistan, Mohamed Hassan Akhund va prendre la tête du nouveau gouvernement taliban. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En Guinée, la junte au pouvoir bénéficie d'un soutien de taille. Sélou Dalène Diallo, chef de file de l'opposition deux fois battu par Alpha Condé, a offert sa cause aux militaires pour la construction d'une démocratie. Les nouvelles autorités guinéennes multiplient des annonces. On fait le point avec Zakaria Kamara, notre correspondant à Conakry.
Le sort d'Alpha Condé est toujours incertain, mais les militaires assurent qu'il est en lieu sûr. Le nouvel homme fort de Conakry, lui, y va avec fermeté. Ses faits et gestes sont scrutés et analysés. Le tombeur d'Alpha Condé est adoubé dans son pays. Aucune condamnation n'est faite depuis le coup d'État. Il est même renforcé par un soutien que lui apporte Sélou Dalène Diallo, principal opposant à Alpha Condé. Lundi, le chef de la junte a rencontré à Conakry d'anciens dignitaires du régime Condé. Le président du Conseil national pour le rassemblement et le développement s'est montré ferme. Dans les rues de la capitale, les discours du colonel Doumbouya sont sur toutes les lèvres. Tous les ministres sortants sont sommés de rester au pays, leurs documents de voyage confisqués. Les contrats miniers signés avec le régime Condé sont maintenus. Une commission est mise en place pour recenser tous les détenus politiques. L'ordre de mise en liberté a été signé par le procureur général, selon un avocat des prisonniers. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Les militaires se sont engagés aujourd'hui à accélérer la libération des opposants au président déchu et ont insisté sur la prochaine ouverture d'une concertation nationale pour définir les modalités de la transition politique. Un sommet extraordinaire et virtuel de la CDAO se tient demain pour discuter de la situation en Guinée, a annoncé sa directrice de la communication, Sandra Oulaté. Avant la Guinée, la CDAO s'est dite aujourd'hui préoccupée quant à la tenue, comme prévu en février 2022, d'élections présidentielles et législatives au Mali. La mission conduite pendant 3 jours au Mali par l'émissaire de la CDAO, l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan, avance l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral. La mission de la CDAO a rappelé l'importance du respect de la date des élections annoncées. Elle a encouragé le gouvernement de transition à présenter rapidement un chronogramme ou échéancier pour la tenue de ces élections. On reste au Mali. Le commissaire Oumar Sambaké, chef de la force spéciale antiterroriste malienne, est retourné en prison lundi. Son incarcération pour son rôle présumé dans la répression des manifestations en juillet 2020 avait été annulée vendredi dernier sous la pression de policiers en colère. Bagassi Koura.
Le commissaire Oumar Sambaké, chef de la FORSAT, la force spéciale antiterroriste, était devenu vendredi la première personnalité placée en détention dans l'enquête sur la répression de la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, finalement renversée par des militaires le 18 août 2020. La libération de cet officier quelques heures plus tard face à une mobilisation de policiers dont une partie avait marché sur la maison centrale d'arrêt de Bamako a provoqué l'émoi dans le pays. Face à la désapprobation générale, le ministre de la Sécurité, le colonel Daoud Ali Mohamedine, a demandé au commandant de la FORSAT de retourner en prison, a déclaré à l'AFP le secrétaire général du syndicat national de la police, Tiekunta Kanté. Mais cette fois, c'est au camp 1 de la gendarmerie que M. Sambaké a été placé en détention, selon la même source. Le 10 juillet 2020, après des semaines de mobilisation contre le président Keïta, une manifestation avait dégénéré en plusieurs jours de troubles à Bamako. L'opposition avait fait état de 23 morts et l'ONU de 14 manifestants tués, dont 2 enfants, durant la répression.
Le Burkina Faso et le Mali se sont concertés ce mardi pour mener dans les prochains mois des opérations militaires conjointes contre le groupe djihadiste qui cible ces deux pays frontaliers. Le défi auquel nous sommes confrontés est commun et la réponse doit être globale. C'est ensemble que nous allons relever ce défi, a dit le ministre malien de la Défense, Adio Camara, en visite à Ouagadougou. Il a rencontré le président burkinabé, Roch Marc Christian Kabore. Une grande majorité de réfugiés ivoiriens dans les pays voisins ne vont plus bénéficier de ce statut, a annoncé aujourd'hui l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui estime que beaucoup d'entre eux n'ont plus besoin de protection internationale. Cette décision, dont le HCR recommande l'application le 30 juin 2022, intervient après une réunion de deux jours à Abidjan entre le gouvernement ivoirien et les pays qui accueillent un grand nombre de réfugiés, notamment le Libéria voisin. Au Rwanda, le président Paul Kagame a rejeté dimanche les critiques formulées à l'encontre du procès pour terrorisme visant Paul Rusesabagina, ancien hôtelier qui a inspiré le film Hôtel Rwanda. Le point avec Rosine Monezero.
Paul Rusesabagina, 67 ans, est jugé pour son soutien présumé au Front de Libération Nationale, un groupe rebelle qui a revendiqué des attaques en 2018 et 2019 qui ont fait 9 morts au Rwanda. Rusesabagina est visé par 9 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme. Il est ici en train d'être jugé pour cela. Cela n'a rien à voir avec un film, rien à voir avec son statut de célébrité. Il s'agit des vies perdues de Rwandais à cause de ses actions et à cause des organisations auxquelles il appartenait ou qu'il dirigeait, a déclaré le président Paul Kagame à la télévision nationale rwandaise. Monsieur Kagame a souligné qu'il méritait d'être jugé équitablement devant un tribunal et qu'il serait jugé aussi équitablement que possible. Monsieur Rusesabagina a nié toute implication dans ces attaques. Les États-Unis, le Parlement européen ou encore la Belgique ont exprimé leurs préoccupations sur les conditions de son arrestation et l'équité de son procès. Les procureurs ont requis la prison à perpétuité. Le verdict est attendu le 20 septembre.
En Ouganda, deux députés de l'opposition ont été inculpés ce mardi pour avoir prétendument orchestré une vague de meurtres à la machette qui a fait des dizaines de morts dans le sud du pays, une décision qualifiée de persécution politique par leur avocat. Après 2 jours d'interrogatoire, les députés Mohamed Serenia et Alan Sewaniana ont été inculpés par un tribunal de Masaka d'accusation de meurtre et de tentative de meurtre. Les deux députés sont membres de la plateforme d'unité nationale de l'opposant Bobby Wine. La reprise du procès pour corruption de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, initialement prévu jeudi, est reportée dans l'attente de conclusion sur son état de santé après sa mise en liberté conditionnelle pour des raisons médicales, a annoncé ce mardi le parquet. L'audience est reportée avec le consentement de toutes les parties au 20 et 21 septembre. L'ancien chef d'État purgeait une peine de 15 mois de prison pour outrage à la justice. Le procès de Hossam Bagat, directeur d'une ONG égyptienne de défense des droits humains jugé pour un tweet critiquant les autorités électorales, a été reporté au 2 novembre. Le journaliste Hossam Bagat est accusé d'outrage envers les autorités électorales pour avoir évoqué de possibles fraudes lors des législatives de 2020 sur ses comptes personnels Facebook et Twitter.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le nouveau gouvernement afghan sous l'ère taliban prend forme. 3 semaines après avoir pris le pouvoir, les talibans ont dévoilé aujourd'hui une partie de leur futur gouvernement qui sera dirigé par Mohammad Hassan Akhund. Le point avec Abdourahman Dia.
Ces annonces ont été faites par le porte-parole Zabihullah Mujahid lors d'une conférence de presse à Kaboul. À la tête de ce gouvernement, Mullah Mohammed Hassan Akhund, qui a été le chef du puissant conseil exécutif des talibans, le Rehbari Shura, où il a servi pendant 20 ans. Pendant le premier règne des talibans entre 1996 et 2001, il a été ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre. Il est aussi de Kandahar et parmi les membres fondateurs du mouvement des talibans. Le cofondateur des talibans, Abdul Ghani Baradar, sera numéro 2 du gouvernement. Il a notamment conduit les négociations de Doha avec les Américains ayant mené au retrait des forces étrangères. Le Mollah Yacoub, fils du Mollah Omar, est ministre de la Défense et Sharijuddin Haqqani, chef du réseau Haqqani à l'intérieur. Amir Khan Muttaqi, négociateur taliban à Doha, prend la tête du ministère des Affaires étrangères.
Le procès du cerveau présumé du 11 septembre, Khalid Sheikh Mohamed, et de 4 accusés, a repris aujourd'hui. Les 5 hommes sont emprisonnés depuis 15 ans dans la prison de la base navale américaine de Guantanamo. L'Amérique s'apprête à commémorer les attaques meurtrières du 11 septembre 2001, il y a 20 ans, et qui avaient déclenché l'invasion de l'Afghanistan. Le président américain Joe Biden, aujourd'hui à New York, dans l'État du New Jersey, afin de constater les dégâts causés par l'ouragan Aïda la semaine dernière, qui a fait au moins 57 morts et 4 disparus. New York a annoncé que 17 personnes avaient été tuées par la tempête. Dans le New Jersey, 27 personnes sont mortes et 4 personnes sont encore portées disparues, selon un porte-parole du gouverneur de l'État. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Rosine Monizero.
La RDC et le Burundi ont procédé au réajustement de l'accord sur les services aériens portant sur la création de ponts aériens entre les deux pays. La convention initiale était uniquement centrée sur la ville de Kinshasa et les réaménagements permettront d'établir les ponts aériens entre le Burundi et la RDC à partir de plusieurs villes comme Bukavu, Goma et Lubumbashi qui sont des points d'entrée dans les deux pays. En Algérie, la société publique des hydrocarbures, Sonatrach, a annoncé que la société Equinor de la Norvège restera plus longtemps que prévu dans le pays. Les contrats d'Equinor en Algérie couvrent la production de gaz naturel à l'exportation dans les provinces d'Inasala et d'Ainamenas et devraient arriver à expiration en 2027. Le nouveau contrat prévoit également que les partenaires limitent leurs émissions de carbone et investissent dans des projets d'hydrogène bleu. Au Kenya, la filière noix de macadamia traverse une mauvaise saison due au ralentissement de la demande mondiale suite à la pandémie de coronavirus. Selon les données de l'Autorité de l'agriculture et de l'alimentation, le montant des expéditions du fruit à coque est passé de 52 millions de dollars en 2019 à seulement 24 millions de dollars en 2020. Le Kenya espère rebondir en 2021 grâce à l'assouplissement des mesures sanitaires et le redémarrage progressif des économies en Europe et aux États-Unis, les principaux importateurs de ce fruit.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Suite et fin aujourd'hui des matchs de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Zone Afrique, 3-1 pour le Sénégal face au Congo. Les Lions de la Teranga enchaînent ainsi avec une deuxième victoire en deux matchs. 2-1 pour le Nigeria face au Cap-Vert. La Tunisie a battu la Zambie 2-0. La Tanzanie a eu le dernier mot devant Madagascar 3-2. 1-0 pour le Malawi face au Mozambique. Même score pour l'Éthiopie devant le Zimbabwe. 1-0 pour la Guinée équatoriale qui recevait la Mauritanie. À suivre toujours ce soir, Burkina Faso, Algérie à Marrakech au Maroc. Le Soudan reçoit la Guinée-Bissau et l'Angola joue la Libye. Hier, la Côte d'Ivoire s'est reprise en battant le Cameroun dans le choc de cette deuxième journée de 2-1 au stade d'Ebimpe à Abidjan. L'ancien attaquant de West Ham, Sébastien Haller, a marqué 2 buts en 9 minutes pour donner à la Côte d'Ivoire la victoire.
On sait que le premier but est le plus important. Et bien évidemment, le fait de marquer ce penalty met en confiance toute l'équipe. Moi, le premier, ça amène à créer des occasions et être beaucoup plus confiant pour amener le second but. Donc.
Sébastien Haller, attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire pour les Lions indomptables du Cameroun. Le plus important, ce sont les matchs à venir. Michael Ngadeu Ngadji.
Je crois qu'il y a encore 4 matchs qui nous restent à venir, mais parmi lesquels un match à domicile contre la Côte d'Ivoire, je crois que ce sera le match le plus important, le plus déterminant. Si nous continuons à jouer nos matchs, les 2 prochains matchs contre le Mozambique, si nous faisons des bons résultats, tout est encore possible.
Michael Ngadeu Ngadji, footballeur camerounais. Dans le reste des matchs d'hier, le Ghana s'est incliné devant l'Afrique du Sud 1-0. Même score pour le Libéria face à la République centrafricaine. 4-2 pour le Niger qui affrontait Djibouti. 0-0 entre le Mali et l'Ouganda et 1-1 entre le Bénin et le Congo. Rugby, le 3e et dernier tour des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2023 aura lieu en France en juillet 2022. C'est ce qu'indique le directeur général du comité d'organisation Claude Hatcher. 7 rencontres sont programmées avec un mini-tournoi à 8 qui débute au stade des quarts de finale. Namibie, Burkina Faso, Zimbabwe, Côte d'Ivoire, Sénégal, Algérie et Ouganda, Kenya. Le vainqueur de la compétition se retrouvera dans la poule A avec la France, la Nouvelle-Zélande, l'Italie et une équipe issue des éliminatoires nord-américains. 13 des 20 équipes qualifiées pour le Mondial 2023 en France du 8 septembre au 28 octobre sont déjà connues. Parmi elles, bien évidemment, l'Afrique du Sud, championne du monde en titre.
Page de sport signée Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Guinée, à Cancan, dans l'est du pays, des manifestations de soutien à la junte militaire ont eu lieu ce mardi. Cette région est un bastion du président Alpha Condé, mais aussi la ville d'origine du colonel Doumbouya, auteur du coup d'État. Yakuba Ouedraogo a joint à Cancan Amadou Thiam, journaliste du groupe Dabo Média Cancan.
Ces jeunes qui manifestent à Cancan, on ne peut pas dire exactement ils sont de quel bord politique, mais quand même, ils sont en centaines, accompagnés par les forces de défense et de sécurité, sont en train de faire la ville en compagnie de certains responsables de jeunes.
Pour qui ou contre qui manifestent-ils?
Ils ont même été reçus par les nouvelles autorités militaires, pas contre quelqu'un, mais ils manifestent un certain soutien au régime militaire en place.
Nous savons que c'est Cancan, quand même, hein, fief du professeur Alpha Condé à l'origine. Il n'y a pas de contre-manifestants?
Il n'y a pas de contre-manifestants parce que ça circule sur les réseaux sociaux depuis hier nuit. Ce sont des jeunes même de Cancan, pas tout le monde, hein, certains, qui appelaient à manifester aujourd'hui pour soutenir la jeune qui était au pouvoir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que celui qui est à la tête de cette jeune militaire est de Cancan aussi. Cela signifie que la situation restait un peu compliquée par rapport à cela. Il y en a qui le soutiennent effectivement. Alors, ils ont profité de cette journée pour manifester leur joie. Et accompagnés par les militaires, bien sûr, ils ont été reçus par le nouveau gouverneur de la région administrative de Cancan. Il s'agit du général Diakité.
Et qu'est-ce qu'il passe comme message dans les manifestations?
Alors, il passe comme message pour dire que quel que soit ce qui se passe, le monsieur est un jeune de Cancan. On va les soutenir, oublier tout ce qui s'est passé, afin que ce monsieur, par exemple, continue toujours à veiller sur Cancan ou à s'occuper des problèmes de développement de Cancan. Pour dire tout simplement que personne ne s'oppose à son arrivée au pouvoir, que Cancan reste attaché à tout ce qui est une de paix, à tout ce qui peut faire quelque chose pour le développement de la ville.
Il n'y a pas d'autre message en dehors de cette dimension quelque peu ethnique lié à l'origine du nouveau patron de la Guinée, le colonel Doumbouya?
Il faut le savoir que depuis qu'il y a eu ce coup d'état dimanche, tout le monde vague à leur affaire. Il n'y a pratiquement aucun problème. Hein. Pas de revendication. Tout se passe comme rien n'a été. Hein. C'est seulement des jeunes centaines qui ont eu cette initiative et qui ont lancé ces appels sur les réseaux sociaux après la manifester ce matin à Cancan.
Est-ce qu'on pourrait dire que Cancan est définitivement acquise à la cause de la junte militaire?
Il ne faut pas le dire maintenant là parce qu'il y a la majorité silencieuse aussi. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas tout Cancan qui est sorti. Il faut attendre d'abord quelques jours pour voir ce que Cancan, la population de Cancan, ressent effectivement par rapport à cela.
Amadou Thiam, journaliste au groupe Dabo Média Cancan.
Mandia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la chute du président Alpha Condé en Guinée et les coups d'État en Afrique. Troisième putsch dans la sous-région depuis le mois d'avril, il intervient moins d'un an après qu'Alpha Condé a rempilé pour un troisième mandat controversé. La Guinée se dirige donc vers une nouvelle transition militaire. Et quels sont les chantiers des nouveaux maîtres de Conakry? Pourquoi assiste-t-on à un retour des coups d'État en Afrique de l'Ouest? Comment garantir la stabilité institutionnelle en Afrique? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'année scolaire au Cameroun a débuté hier. Des centaines d'écoles des régions anglophones ont rouvert leurs portes. Pour la première fois depuis 3 à 5 ans, les séparatistes menaçaient les enseignants et élèves pour maintenir les établissements scolaires fermés, mais certains rebelles disent à présent qu'ils devraient être épargnés par le conflit. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka, relaté par Nathalie Barge.
Le gouvernement camerounais a annoncé lundi la réouverture des écoles dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. La plupart étaient fermées depuis le début du conflit séparatiste en 2017. Guide Laurence Tché, administrateur du gouvernement Nkambé dans le nord-ouest, dit qu'une demi-douzaine d'écoles fermées par les séparatistes dans les 17 villages de la commune ont rouvert.
Le taux de participation dans ces écoles est vraiment encourageant. Chaque village de la sous-division peut se vanter d'avoir des écoles fonctionnelles. Cette fois-ci, nos populations sont plus que jamais déterminées à ce que ces écoles deviennent opérationnelle. La preuve en est que les populations de ces zones, sous la houlette des autorités traditionnelles et religieuses, sont sorties pour nettoyer les campus scolaires.
Les séparatistes ont attaqué ou incendié plus de 200 écoles entre 2017 et 2019 et presque toutes celles des régions du nord-ouest et du sud-ouest ont été fermées. Les enseignants et les élèves se sont enfuis vers des localités plus sûres. Daniel Capot, chef d'état-major des forces de défense d'Ambazonie, principal groupe séparatiste, affirme que les ADF ont donné des instructions pour la réouverture des écoles pour la première fois en 5 ans.
Le futur État indépendant d'Ambazonie ne sera pas gouverné par des personnes sans instruction. C'est pourquoi il est très important pour nous d'instituer ce système éducatif alternatif au sein même de notre lutte pour la sécession du Cameroun.
Il a toutefois menacé de refermer les écoles et de punir les enseignants et élèves qui ne respecteraient pas les ordres des ADF. Il assure que ces combattants ont reçu pour instruction de s'assurer que l'hymne national du Cameroun ne soit pas chanté dans les écoles anglophones. Kilo Viviane Achéri, secrétaire d'État du ministre camerounais de l'éducation de base, affirme que certains élèves seront admis dans des zones plus sûres, tout en soulignant que le gouvernement continuera à déployer des troupes pour s'assurer que tous les enfants aient accès à l'éducation.
Vous savez que nous souffrons du problème de l'insécurité, mais alors que certains endroits s'aggravent, d'autres s'améliorent. Et le ministre a conçu un moyen d'utiliser les enseignants qui ont été affectés dans des endroits non sécurisés pour aller dans des endroits plus sûrs et constituer ainsi la main-d'œuvre pour instruire ces enfants.
On ignore combien d'élèves des régions camerounaises du nord-ouest et du sud-ouest étaient présents à la rentrée des classes le 6 septembre, mais la plupart de ces enfants devront surmonter un retard éducatif considérable après 5 années d'absence d'instruction dans leur village.
Pour la première fois au Maroc, près de 18 millions d'électeurs sont appelés à voter demain mercredi pour élire les 395 députés et plus de 31 000 élus communaux et régionaux. Ce scrutin vise à augmenter le taux de participation qui n'a été que de 43% en 2016. Claire Morin-Gibou a joint Pierre Vermeren, professeur d'histoire du Maghreb à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Il y a plusieurs étages, si vous voulez. D'abord, il y a encore 8 millions de Marocains au Maroc qui ne sont pas inscrits sur les listes et presque 5 millions à l'étranger. Donc ça, faut quand même le souligner. Donc de toute manière, le taux de participation sera partiel, si on peut dire. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a un regroupement des 3 élections, nationales, législatives, régionales et communales. Ça favorise, bien sûr, parce que ça va être plus simple. C'est les seules élections pendant les 5 années qui viennent. Mais en même temps, la campagne électorale a été extrêmement courte, en plein été, au sortir de la pandémie, avec un pays où il n'est pratiquement pas possible de faire campagne. Donc, vu la longueur de la campagne, moi j'aurais tendance à dire que le fait de regrouper ces élections, c'est que le pouvoir, le Palais Royal, voudrait se débarrasser très vite de ces élections. Et c'est sûrement ce qui va se passer. Maintenant, la participation, évidemment, c'est toujours important. On verra sur les 18 millions d'électeurs combien se déplacent. Il n'y a pas de sondage au Maroc, donc on ne sait pas du tout ce qu'il en est. Mais si on approchait des 50%, le pouvoir trouvait que c'est un succès. Enfin, maintenant, encore une fois, ça ne donnera qu'une vue partielle, puisque un certain nombre de gens, de toute manière, ne sont pas inscrits.
Quel est l'enjeu de ces élections, selon vous ?
Pour le pouvoir, l'enjeu, si vous voulez, ça serait de mettre fin à 10 années de gouvernement PJD, c'est-à-dire le Parti de la Justice et du Développement, qui est le parti islamiste qui avait gagné les élections au lendemain du printemps arabe. C'est un gouvernement que le Palais Royal n'aime pas beaucoup, à vrai dire, le roi n'aime pas les islamistes, mais bon, ils sont en tête. Maintenant, ce n'est qu'un parti de coalition, hein, parce qu'il y a plusieurs partis qui dirigent. Et les manettes, comme on dit souvent, restent aux mains en réalité du Palais Royal, notamment pour les affaires de sécurité, j'allais dire pour les affaires les plus importantes, y compris les affaires économiques. Donc ça, c'est un enjeu. Alors, qui pour remplacer ? Plusieurs options, mais le candidat le plus proche du palais, c'est Hanouch, qui dirige le parti du RNI, le Rassemblement National des Indépendants, qui est un vieux parti créé à l'époque de Hassan II, le père de l'actuel roi. Donc, le fait de substituer l'actuel Premier ministre par M. Hanouch ou par un de ses proches serait évidemment une victoire pour le palais. Mais ça dépend évidemment dans quelles conditions et à quel niveau de participation. Une petite réforme électorale a été faite qui va compliquer la tâche du PJD, qui va démultiplier les partis et donc la possibilité d'une coalition à l'intérieur du Parlement. Ça, c'est la face cachée un peu de ces élections, mais ça va être très dur certainement pour le PJD de remporter ces élections.
C'était l'historien Pierre Vemeren. Il a notamment publié « Le Maroc en 100 questions, un royaume de paradoxes » en 2020.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pendant ces 20 ans de guerre en Afghanistan, l'armée américaine a perdu plusieurs milliers de soldats, des militaires comme Christopher Horton, qui était un tireur d'élite et qui a été tué dans une embuscade le 9 septembre 2011. Aujourd'hui, sa veuve, Jane Horton, se consacre à défendre les familles de soldats tombés au combat. La correspondante de VOA au Pentagone, Carla Barbe, évoque le souvenir de ses voyages en Afghanistan, l'héritage et le sacrifice de son défunt mari. La narration est de Salwa Jafari.
Chris était un homme d'honneur. Dans des moments comme celui-ci, je pense à tout ce qu'il représente et à quel point il aimait ce pays. C'était donc, je crois, la première photo que nous ayons prise ensemble. Nous n'avons jamais pensé qu'il lui arriverait quoi que ce soit. En voyant les statistiques en boucle, 2400 morts, j'ai eu de la peine à réaliser que mon mari est l'un de ces 2400 soldats tués en Afghanistan. Quand j'ai reçu ce choc, j'ai compris que cette vie ne se résume plus à moi. Cette vie consiste à parler aux gens d'hommes et de femmes qui sont prêts à se battre, à mourir pour nous, des gens qui aiment tellement l'Amérique qu'ils sont prêts à tout donner. Vous savez, les gens observent les familles des disparus, ils ont peur de nous approcher. Certes, les gens se soucient de nous, mais ils n'arrêtent pas de nous demander que se passe-t-il réellement après avoir frappé à la porte. Donc, il faut travailler pour s'assurer que cela reste dans l'esprit des gens qui sont au pouvoir, parce que ma génération est à la maison en train de s'occuper des enfants. Ils n'ont pas le temps de s'assurer que les gens se souviennent ou font attention. C'est pourquoi je suis assez incapable avec ça, parce que ce n'est pas à propos de moi. Et si je peux rendre un jour plus facile la vie de ces familles, je le ferai. Je voulais aller en Afghanistan et je voulais en savoir plus sur le pays parce que le sang de mon mari y a coulé. Et le général Joseph Danforth, ancien chef d'état-major interarmé, m'a amené pour la première fois. J'étais tellement excitée d'y aller. Vous savez, ce voyage a vraiment changé ma vie. Et donc, tout au long des années d'implication des États-Unis en Afghanistan et de connaissance du peuple afghan, j'ai vraiment l'impression qu'ils m'ont rendu une partie de mon cœur. Mais ce qui me maintient éveillé la nuit et ce qui me hante, c'est que les gens ne savent pas pourquoi il est mort. Pourquoi est-il mort en Afghanistan ? Et si nous ne le savons pas, alors nous devons vraiment nous poser les questions en tant que pays sur le pourquoi. Si mon mari entrait ici maintenant et s'asseyait à côté de moi, que lui dirions-nous ? Vous savez, et alors que cela se produit et que la guerre est terminée maintenant, tout le monde demande ceci aux familles Gold Star. Cela en valait-il la peine ? Comment vous sentez-vous? Et je me dis, comment ose-t-il demander ça? Comment osez-vous nous demander si cela en valait la peine alors que c'est la question à laquelle le peuple américain devrait répondre? Mon mari n'était pas à moi. Quand je l'ai envoyé à la guerre, je l'ai envoyé pour l'Amérique. Il était tout pour nous. Et je ne devrais donc pas avoir à réfléchir à cette question toute la journée sans que mon pays réfléchisse avec moi. Et donc je demande au peuple américain de demander, cela en valait-il la peine?
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.